me suis réveillé plusieurs fois cette nuit pour être à l'heure.
Je ne sais pas si ça sert à grand-chose, le changement horaire. Mais paraît-il que ça bouscule les enfants. Beaucoup, semble-t-il. Hein. Alors les adultes, beaucoup moins, mais bon. Alors ça m'a fait plaisir d'entendre parler de la Côte d'Ivoire, d'Abidjan, mais pas dans les circonstances où la sœur a parlé, quoique son témoignage est très fort. Ça m'a touché. Et puis, j'avoue que prêcher, oui. Mais on aurait très bien pu continuer les témoignages, hein, parce qu'ils sont une prédication à eux seuls. Voilà, moi, j'aurais bien passé mon temps à écouter. Et jouer à cache-cache aussi, alors ça m'a plu. On joue à cache-cache, pas avec Dieu. On ne trompe jamais Dieu. De toute façon, jouer à cache-cache, on peut jouer à cache-cache avec les hommes, mais pas avec Dieu. Parce que de toute façon, Dieu vient derrière le fait de se cacher. Et il nous regarde. Mais on se cache quand on est coupable. Quand on a honte, ça va avec la culpabilité. Et ça va aussi avec l'humiliation de la honte et de la culpabilité. Et si on joue à cache-cache, ça veut dire qu'à quelque part, je suis dans la désobéissance avec Dieu. Pour être clair, pour regarder les choses en face. Donc, Adam a connu cela avec Ève, hein, quand ils ont entendu la voix de Dieu dans le jardin d'Éden, vite, ils se sont enfuis pour se cacher. Et oui, mais Dieu savait où ils étaient. Je voudrais parler de la vision personnelle. Alors, compte tenu de l'heure, je ne parlerai pas d'une vision d'église. Je crois que c'est aux responsables locaux à donner la vision de l'Église, mais dans ce que j'aurais dit, de toute façon, ça inclut toutes les Églises. Donc, mais la vision personnelle, je pense que, enfin, dans ce qui a été dit dans les témoignages, c'est que vous avez une vision personnelle de votre marche avec Dieu. Il y a des certitudes, des convictions dans tout ce qui a été dit, et c'est ça qui est agréable, c'est qu'on sent que tu es à l'œuvre, que Dieu est au clair avec vous et que dans votre cœur, les choses sont claires aussi avec Dieu. La vision, alors on peut avoir une vision, c'est-à-dire un spectacle qui se déroule devant nos yeux physiques, ou alors dans notre esprit, les yeux de notre cœur, comme le dit l'apôtre Paul, hein, nos yeux intérieurs, les yeux de nos cœurs sont illuminés par la présence de Dieu, mais c'est parfois un film qui est projeté devant nous. Et cela arrive. Et je pense que c'est bon de prendre, parce que là, Dieu est en train de nous parler. Je voudrais parler au niveau de la vision, surtout de la vision personnelle et de comprendre le processus d'une vision. Avoir une vision, un spectacle, c'est une chose. Mais je pense que vous avez la vision de votre marche personnelle. Et il y a un processus, il y a des étapes. Oh, nous allons prendre très simplement la vision de Joseph, la vie de Joseph. Vous connaissez Joseph dans l'Évangile, ah pas dans l'Évangile, dans la Genèse, chapitre 37. Joseph était âgé de 17 ans, c'était un jeune homme, un adolescent. Et Dieu s'est adressé à un adolescent. Et oui. Et dans le psaume 105, verset 19, il est dit que Joseph fut vendu comme esclave. Et puis on serra ses pieds dans des liens, on le mit au fer, c'est-à-dire qu'il était en prison. Jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé, parce que Dieu lui avait parlé. Et là, bien sûr, quand Dieu parle, la parole s'accomplit toujours. Mais par contre, il est dit aussi où la parole de l'Éternel l'éprouva. C'est l'autre volet, c'est le deuxième aspect. C'est-à-dire que la parole de Dieu l'a éprouvé, l'a formé, l'a tamisé, l'a pétri, et il a été pétri au travers des circonstances qu'il a vécues. Alors nous aimons avoir un regard sur les choses à venir dans notre marche personnelle, parce que nous aimons voir aussi l'accomplissement de cette vision intérieure au travers de ce que Dieu fait. Il y a tout un processus, et notre sœur, quand elle parlait de son époux et combien elle était convaincue dès le départ, jusqu'à l'arrivée, jusqu'à la finalité, que Dieu était dedans, et il y a eu tout un processus, et un processus de foi de sa part. Je trouve ça beau, et très courageux par ailleurs, il faut le dire. Mais au niveau du travail aussi, notre sœur qui en a témoigné, là aussi, ténacité. Là aussi, fermeté. Là aussi, il a fallu tenir. Mais c'est la part de ceux qui ont un regard intérieur avec Dieu. La vie de Joseph, âgé de 17 ans, un adolescent, c'est toujours tout. Vous êtes passé par l'adolescence, vous avez des enfants, ils sont adolescents, ils savent toujours tout, c'est dangereux, il n'y a pas de maturité. Et les parents parfois se font du souci parce qu'un adolescent n'est pas toujours maîtrisable et il faut parfois le discipliner. Ça fait partie de la vie de famille. Et au verset 3, on voit que Joseph, son père, eh bien tout simplement, avait une préférence à l'égard de son fils Joseph. Il l'aimait plus que tous les autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Oui, mais ce n'est pas une raison pour avoir une préférence à l'égard de ce fils, même s'il l'avait eu dans un âge avancé. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Et à l'époque, une tunique de plusieurs couleurs, c'était un signe de distinction, un signe de marque, un signe d'élévation et de noblesse, de dignité. Alors bien sûr, ça ne plaisait pas aux frères de Joseph. Et quand on voit le père Israël, Jacob, eh bien, il n'est pas très sage non plus en tant que papa. Et parce que les frères constatèrent la différence qu'ils faisaient entre Joseph et eux. Et ils prirent Joseph en haine. La situation était quand même houleuse, désagréable. Puis voilà que Joseph a un songe de la part de Dieu. Et c'est réellement de Dieu. Et il explique le songe à ses frères, combien il y a des gerbes qui sont liées par les uns et par les autres. La gerbe de Joseph se tient debout, tandis que toutes les autres gerbes de ses frères se prosternèrent devant lui, devant sa gerbe. Et puis ses frères réagissent et disent « Est-ce que tu vas régner sur nous? Est-ce que tu vas nous diriger ?» Et alors, bien sûr, déjà qu'il ne l'aimait pas, la haine grandit au milieu de ses frères. Puis un deuxième songe, vous voyez au verset 9 du chapitre 37 de la Genèse, on voit ce deuxième songe. Alors là, c'est parler de soleil, de la lune et de 11 étoiles qui se prosternaient. Et puis il dit bien, devant moi. Donc Joseph affirme les choses avec un manque de sagesse. Mais c'est Dieu qui lui a parlé. Ça, par contre, c'est juste. Vous voyez un peu la contradiction, hein. À la fois, il est très irréfléchi et très inconséquent, très illogique dans son comportement. Il sait que ses frères ne l'aiment pas. Alors il sème encore du feu là-dessus. Il ajoute à la situation de haine. Mais Dieu lui a parlé, et il parle, il explique les choses, son père le réprimande, et puis alors bien sûr, ses frères ont envie, ça fait envie à ses frères, ça n'arrange pas la situation. Ce jeune homme est rempli d'orgueil. Voilà le problème, c'est l'orgueil. Et vous allez me dire, mais enfin un jeune homme bien sûr qui reçoit une parole de Dieu, qui reçoit des songes, ben, oui forcément il y a une réaction, oui c'est l'orgueil. Mais je dirais, quand on reçoit quelque chose de la part de Dieu, frères et sœurs, il y a toujours une phase d'orgueil. Parce que Dieu m'a parlé, parce que Dieu m'a dit. C'est une phase normale, classique, ben nous pouvons connaître cette phase, qui pour un adulte, par contre, ne dure pas à la différence près. Autant un adolescent, ça peut être beaucoup plus fort, autant un adulte, on arrive à se raisonner. Et puis un adulte spirituel, alors si Dieu me parle, par contre j'ai une certaine sagesse. C'est vrai qu'un conducteur spirituel ne peut pas être un novice, sinon il y a l'orgueil. Et c'est vrai aussi de dire que notre nature humaine est pétrie d'orgueil. Et quand on met notre orgueil sous notre pied, ben, la tête, si on donne une image, la tête de l'orgueil se relève, et puis finalement elle me crache à la figure, parce que l'orgueil a beaucoup de vanité et de résistance par rapport à ma propre vie. Donc, si à un moment donné je connais cette phase d'orgueil, il ne faut pas se décourager, mais gérer, neutraliser l'orgueil qui relève de notre nature humaine. Et puis la deuxième phase qui est importante, qui est à relever, quand Dieu dit, quand Dieu parle, c'est l'opposition. Dieu m'a parlé, je vais connaître l'opposé. Ça, c'est à quelque part une règle spirituelle. Parce que j'ai entendu Dieu, l'opposition va se lever, elle va se produire, l'opposé se passe. Se passe. Et cependant, on est sûr d'avoir entendu Dieu, et puis c'est vrai, on a réellement entendu Dieu. On va subir l'opposition. Alors on dit à Joseph, au travers des songes, mais tu vas être élevé. Et puis les frères le prennent bien comme tel. Il sera élevé. Tes frères vont se courber devant toi. Qu'est-ce qu'il passe? Il tombe dans un puits. À l'initiative de ses frères, à un moment donné, le voilà isolé, envoyé par le père pour se rendre compte de ce qui se passe avec les troupeaux. Et bien les frères complotent contre Joseph pour le faire mourir. Ils se diront l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive, tuons-le, jetons-le dans une des citernes. Et puis Ruben réagit, dit quand même, touchez à notre frère, pas toucher à notre frère et ne pas répandre le sang. Donc on le jette dans la citerne et on le laisse vivant avec l'intention pour Ruben de revenir chercher son frère et puis l'enlever de la citerne. Il avait un bon fond, cet homme. Mais quand on se rend compte un petit peu, il y a un simulacre. Alors bien sûr, ses vêtements sont pris, et puis du sang est versé. Puis vous savez, à l'époque, l'ADN n'existait pas. Donc on pouvait mettre du sang animal, puis ça passait. Ça pouvait être pris pour du sang humain. Et donc, le père, quand Jacob constate cette tunique et voit l'état de cette tunique, il comprend que son fils, pour lui, est décédé. En vérité, il est vendu à une caravane d'Ismaélites, et il est vendu pour peu de choses, et l'emmène en Égypte. Alors on est loin de la vision que Dieu, et des songes que Dieu lui a donné. Ça, on est tout à fait d'accord. C'est une opposition véritable, forte, qui vient des frères. On pense qu'ils vont comprendre, mais ils ne comprennent pas. Mais c'est une manière de Dieu. Jésus a connu l'opposition de ses propres frères. Il a connu l'opposition des dirigeants religieux. Il a connu l'opposition de la part de Judas, mais là c'est même plus loin, c'est de la trahison. Haute trahison. David, à l'exemple de Joseph, il a connu l'opposition aussi de ses propres frères. Jalousé, il l'a été. Ils ont vu que l'huile était répandue par Samuel sur David, et l'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour-là, et dans la suite, ils s'en sont bien rendus compte. Et quand David va au combat, et qu'il va sur le terrain du combat, là où il y a Goliath, les frères réagissent et disent « Mais que fais-tu ici? Tu viens nous épier !» Et ils l'ont réellement haï. Et puis, il était l'instrument de Dieu. Opposition du roi Saül, son beau-père en l'occurrence. Mais David l'a servi fidèlement. Chassé au travers du désert en raison de l'intention de Saül de le tuer, finalement, il connaît encore une opposition plus radicale, c'est celle de son fils Absalom. Vous connaissez l'histoire. Absalom crée un véritable complot, une conspiration contre son propre père, au point même de mettre David en danger. Il va très loin, Absalom. C'est pas bon, bien entendu, ça s'est retourné contre Absalom. C'est clair, c'est net. Mais Dieu avait parlé à David. Il a été loin. Et il a été installé comme roi d'Israël en raison de l'onction royale qui était sur sa propre vie. Moïse a connu l'opposition également du peuple. Dans Actes 7, verset 25, il dit, il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais ils ne comprirent pas. Ben non, il y avait bien l'appel de Dieu, mais ses propres frères ne comprenaient pas. Donc, on connaît l'opposition, la difficulté, tel que ça a été témoigné tout à l'heure, mais aussi l'action de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, quand on connaît l'opposition, parfois on se lamente, on est parfois découragé, mais cependant, Dieu a parlé. Et si Dieu a parlé, quel que soit mon état d'âme, la parole de Dieu va s'accomplir. Si l'ennemi peut vous convaincre de ne pas poursuivre la vision alors que Dieu vous a parlé, c'est que Dieu ne vous a pas parlé. Ça, c'est clair. Parce que vous résistez quand Dieu a parlé. Je sais que Dieu m'a parlé. Et je vais résister. Et puis j'aurai la victoire parce que Dieu est avec moi. Joseph, son attitude n'était pas juste. Il faut quand même le dire. Il était très injuste. Mais il a entendu Dieu. Alors, quand Dieu nous parle, parfois, on est au bord du désastre. On est à la lisière du désastre. Mais Dieu a parlé. Et parce que Dieu a parlé, je suis au bord du désastre, mais en vérité, il y a le tracé de Dieu et l'abondance de Dieu. C'est ça qui est bon de comprendre. Dans la prière sacerdotale, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, il nous est dit « Donne-nous le pain quotidien ». Oui, en bon français, je dirais pas, peut-être en Afrique, non, on n'a pas le même état d'esprit. Et c'est la raison pour laquelle la bénédiction est tout à fait différente en Afrique que ce que nous connaissons en France. Moi, l'Afrique m'a toujours beaucoup donné des leçons spirituelles, de foi, de voir l'action de Dieu, de voir réellement des réponses de Dieu magistrales, et de voir la beauté de Dieu au travers des réponses. J'ai été fortement édifié en Afrique, et en Côte d'Ivoire en l'occurrence, parce que j'y suis allé quand même un certain nombre d'années, année après année. Et j'ai vu réellement la main de Dieu en action, hein. Vraiment en action, hein. avec des guérisons spectaculaires. J'ai vu cela aussi, j'ai vu cela en Côte d'Ivoire, la première année, quand j'y suis allé, c'était en 1991, j'ai été quand même scotché, hein. Nous étions à San Pedro pour l'inauguration d'un temple, on était plusieurs serviteurs de Dieu, et il y avait à peu près 3000 personnes dans le rassemblement. Je peux vous dire qu'un aveugle qui voit se lève, il monte à l'estrade, il crie, il hurle, il parcourt l'estrade, il enthousiasme la foule, tout le monde est en feu spirituel, puis il faut voir réellement le mouvement de Dieu à partir de ce moment-là. Je l'ai vu. Puis d'autres guérisons, d'autres miracles en Côte d'Ivoire. C'est un pays qui m'a marqué par sa beauté. C'est un pays qui est très très beau. Mais c'est un pays aussi où il y a une beauté spirituelle, et j'espère qu'avec tous les soucis qu'il y a eu, que cette beauté spirituelle reste. Amen. Je connais bien la place Figaillot. La place Figaillot, j'ai fait toute une série de rencontres et d'enseignements sur cette place. Eh bien, là, sur cette place, alors qu'une grande tente était plantée, il y a des gens qui venaient aux réunions parce qu'une voix leur disait « À telle heure, tu vas à la place Figaillot, là où il y a la tente. » Et les gens, un Français ne le ferait pas, je vous le dis tout de suite, mais les personnes se déplaçaient et venaient écouter. Et après, disaient, témoignaient, mais se convertissaient et des gens étaient guéris. En France, on entend une voix, on dit « Oh, je deviens fou !» Oui, mais c'est vrai. Et ce sont des inconvertis qui réellement ont entendu une voix, ils ont obéi à la voix, et ils ont obéi de la bonne manière, parce que c'était Dieu qui leur parlait. Mais en France, on entend la voix de Dieu et on la rejette en même temps. C'est la raison pour laquelle la France a bien besoin que l'on prie pour elle. Amen, vous êtes là aussi pour ça, hein. Vous êtes missionnaire en France. La première fois, quand on m'a dit « Mais l'Afrique est en mission en France », ça m'a quelque part un peu choqué, puis blessé. J'ai dit « Comment, nous, on vient en Afrique ?» On vient en mission. Alors moi, je ne suis jamais resté des années, mais des années venues, j'en ai fait, depuis 85. Et puis, ça m'a interpellé. Mais quand on voit l'état de notre pays, France, et également de l'Europe, alléluia, soyez bénis, et bénissez la France. Apportez l'évangile. Vous avez quelque chose de frais, de spontané, comme dans les témoignages que vous avez donnés tout à l'heure. Il y a une fraîcheur qui est là, une spontanéité qui est là, que nous, Français, parfois, nous n'avons plus. J'ai à le dire. Ah ben, je vous choque. Non ? Bon, alors c'est très bien. Non, toi, je ne te choque pas parce qu'on se connaît bien depuis longtemps. Mais bon, je ne sais pas si certains peuvent être un peu surpris parfois. troisième phase, c'est le désert. Connaître le désert. Alors Dieu est un Dieu du quotidien. Il ne faut pas demander à Dieu qu'il va me donner mon pain quotidien, ou non, au mois, non, tous les mois. Ah, tu vas me donner le pain mensuel, Seigneur. Non, c'est au quotidien que Dieu donne, parce qu'il nous fait activer notre foi. Troisième phase, c'est le désert. Moïse, 40 ans avec les moutons. Il est parti dans le désert, il a fui parce que sa vie était en péril. Et puis il a connu un deuxième temps de désert, 40 années également, alors avec le peuple d'Israël. Et ce n'était pas plus facile parce que le peuple d'Israël était difficile aussi à mener. Jean le Baptiste a été formé, il s'est fortifié, il est resté dans le désert jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Jésus, eh bien, il était conduit par le Saint-Esprit, alors qu'il était rempli par le Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit au désert pour être confronté au diable. Et finalement, il en est ressorti loin de puissance et d'autorité. C'est ce que dit l'évangile de Luc au chapitre 3 et au chapitre 4. Mais quand on est dans le désert, on dit, mais qu'est-ce que j'ai bien fait, Seigneur? Quel est le problème que je te pose? Où est ma désobéissance? Non, en vérité, je suis au centre de la volonté de Dieu parce que c'est la manière de Dieu pour me former. Joseph était au fond d'un puits dans le désert. Le désert n'est pas agréable, il a une certaine hostilité, mais il n'y a pas de voie, il n'y a pas de direction. Mais des moments de vie sans direction, cela existe. Mais c'est justement là que l'on apprend à être dirigé par Dieu. C'est là qu'Israël a appris l'obéissance et à être dirigé par Dieu. La pédagogie de Dieu, c'était de mettre Israël dans le désert pour qu'ils dépendent réellement de leur Dieu et qu'ils apprennent à faire confiance à Dieu. Ils en avaient besoin et nous, parfois, nous connaissons des situations aussi pour apprendre à faire confiance à Dieu. Chaque soir, ils réclamaient la manne, mais chaque matin, ils avaient la manne. Donc, c'est l'endroit où Dieu se révèle. Et Dieu parle précisément dans le désert. C'est dans le désert que Dieu parle le plus fort. C'est là que la loi de l'Éternel a été révélée. C'est là que le tabernacle a été bâti, une demeure pour Dieu dans le désert. Et finalement, dans le désert, eh bien, le peuple de Dieu se réjouit parce que Dieu est fidèle. Vous savez, parfois on est dérouté dans notre marche. On sait que Dieu agit, mais la manière qu'il utilise n'est pas la manière que nous programmons. Et ça, parfois, quelles que soient nos cultures, on a parfois fait le programme de Dieu, la manière dont il va faire les choses. Ben non, Dieu fait les choses à sa manière pour nous surprendre et nous former. On ne discute pas ce qu'il fait, mais on discute la manière dont il le fait. On n'apprécie pas toujours. Je ne pense pas que Joseph a apprécié certaines choses, ce n'est pas dit dans la parole de Dieu. Il donne l'impression d'avoir réellement subi. D'ailleurs, il avait guère le choix de se retrouver dans le puits, vendu, et ensuite en esclavage, en prison. Il a subi, c'est vrai. Mais on voit Jonas qui, par contre, lui, a fabriqué son propre désert par sa désobéissance. Malheureusement. Mais quand on voit cette attitude de Joseph, bien, je pense que s'il a été transporté d'une situation à l'autre et que Dieu l'a placé, malgré tout, je pense qu'il y avait un accord de son cœur par rapport à certaines choses parce que Dieu lui avait parlé. Dieu avait marqué son cœur. Et il était en accord avec la parole de Dieu. La parole de Dieu l'a éprouvé, c'est-à-dire l'a formé pour qu'il devienne ensuite un grand dignitaire de l'Égypte, qu'il soit une bénédiction pour toute sa famille par ailleurs. La vie chrétienne est belle, hein? Amen. On a l'opposition, on est trahi, on nous met dans le désert, on nous vend en esclavage et on est au centre de la volonté de Dieu. Mais je traverse ce chemin et j'ai la provision de Dieu, la bénédiction de Dieu. Dieu me parle, il y a un temps de désert, il y a la provision de Dieu. Amen. C'est le plan de Dieu. Quand on a compris cela, ensuite on traverse le désert, la tête droite, avec une position de foi. Et le Seigneur est avec nous. À 17 ans, il n'était pas prêt pour que la parole de l'Éternel s'accomplisse. Bien plus loin, alors qu'il a été éprouvé par la parole de Dieu, il était prêt à l'accomplir. Il a appris à servir, non pas par choix, mais Dieu l'a placé. Et Dieu parfois nous place dans certaines situations qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas, c'est le choix de Dieu. Et on n'a pas à discuter. J'aime beaucoup, à un moment donné, quand Moïse... Alors bon, bien sûr, il est décédé, ça on apprécie moins, hein, c'est clair, mais cependant, ça fait partie de la vie, la mort. Hein. On est bien d'accord. Et Josué, chapitre 1, verset 2, dit « Moïse, mon serviteur, est mort. » Il n'est pas dit qu'il était le plus grand homme. Non, pas du tout. « Mon serviteur est mort. » Mais c'est un compliment. « Mon serviteur, il m'a servi. » Il s'est même dit aussi pour David... Il a servi au dessein de Dieu. Puis il est mort. Partout où Joseph est allé, il a maintenu sa marche avec Dieu. Alors, aujourd'hui, au point où vous en êtes parvenus, vous ne comprenez pas peut-être certaines situations. C'est possible. Marcher avec Dieu. Il y a des choses qui ne vous plaisent pas. Je peux le comprendre, parce que moi, ça m'arrive. Je vous le dis. Marchez encore avec Dieu. Vous n'avez pas envie de témoigner? Le prédicateur n'a pas envie de prêcher? On n'a pas envie de servir le Seigneur? Marche encore avec Dieu. Parce que ça arrive à tous. Mais il faut marcher avec Dieu. Alors, les choses vont s'accomplir. Parce que Dieu est avec toi. Les menaces de la vision, alors c'est vrai que je fais beaucoup plus court, parce qu'avec les témoignages... Mais moi, je serais bien resté sur les témoignages, continuer, hein, puis je remplissais ma vie intérieure. Hein.
Amen.
Vous le dites.
Amen.
Amen. Oui, ah oui, amen, oui. Oui, tout à fait. Et puis ça me ramène à chaque fois, quand je viens ici, à l'Afrique, alors pas uniquement la Côte d'Ivoire, mais la Côte d'Ivoire, oui, mais j'ai connu aussi le réveil du Centrafrique. En 85, il y avait le réveil. C'était quelque chose de fort, de violent sur le plan spirituel, c'était beau. 600 églises se sont levées comme des champignons. C'était beau. Regardez aujourd'hui le désastre de ce pays, il faut prier pour ce pays. Les frères qui sont là-bas, eh bien on les connaît bien, et c'est vrai qu'ils sont en difficulté, il faut réellement prier. Christian Rivière est auprès d'eux actuellement, il va rentrer ce mardi. Donc il est allé quelques jours à Bangui. Je suis allé aussi au Tchad. Alors le Tchad m'a aussi beaucoup marqué, ça a été qu'un passage. Je suis allé en RDC, là aussi ça m'a beaucoup marqué, mais beaucoup marqué par les témoignages des serviteurs de Dieu. On a fait des séminaires pour serviteurs de Dieu. Il y avait Clément Guérigo Zumbo, il y avait Pascal Bonaz, et j'étais avec eux. J'ai connu le Cameroun avec Pascal Bonaz, avec Michel Marvan. Là aussi, ça m'a marqué. L'Afrique m'a marqué. Les deux pays que j'ai fréquentés le plus, c'est le Centrafrique et surtout la Côte d'Ivoire, pendant plusieurs années, bien 12 à 15 ans, où je allais toutes les années. Et c'était pour moi toujours une bénédiction. Alors on dit, on m'a vu à l'Afrique, parfois il y a des situations un peu risquées. Mais écoutez, je ne me suis jamais autant senti en sécurité qu'en Afrique. Je n'ai jamais été troublé. Pourtant il y avait des bruits de guerre parfois, c'est arrivé au Tchad. Je n'ai jamais bougé dans mon cœur. Curieux, hein. Quand on est placé par Dieu, on sait. Et on n'a rien à craindre.
Amen.
Amen, oui. Parfois, je vis plus d'insécurité en France. Comme quoi, hein, dans son propre pays. Mais la sécurité en Afrique, quand on est à sa place, pour le service de Dieu, alors on palpe cette sécurité, on est tranquille en Dieu. Alors j'espère que vous êtes tranquille en France, hein, parce que vous êtes placé par Dieu. Oui ?
Oui.
Soyez tranquille en France, vous êtes placé par Dieu, on a besoin de vous. Le roi Ozias était un roi, dans 2 Chroniques 26, verset 1 au verset 5, mais on ne va pas les lire parce que c'est trop déjà avancé dans l'heure. Il a connu, c'était un roi, hein, il a connu 52 ans de règne, fructueux, obéissant à Dieu. Il avait un conseiller hors pair, c'était Ésaïe. le prophète. Élevé dans l'orgueil de son propre cœur, au bout de 52 ans de règne, il faut le faire, il s'est élevé dans l'orgueil, il a voulu jouer le rôle de prêtre, prendre la place des prêtres. Ah oui, mais il était roi, il avait une onction royale, il n'avait pas une onction de sacerdoce, ce n'était pas un lévite. Et les prêtres se sont opposés à lui parce qu'ils voulaient réellement répandre le parfum à l'autel des parfums. Ils se sont opposés à lui avec force au point qu'il a été frappé de lèpre par le jugement de Dieu. Et il est mort lépreux. Et oui, il a mal terminé de ce côté-là. Et l'orgueil. Quand on a un âge adulte autant avancé sur plan spirituel, c'est autrement plus dangereux que l'orgueil d'un jeune homme de 17 ans qui entend la voix de Dieu mais dont l'orgueil est tout à fait légitime. Mais si, au bout d'un certain nombre d'années de marche chrétienne, je me lève dans une position d'orgueil, alors je deviens pleinement responsable, et cet homme a été frappé, Dieu l'a frappé. Alors aujourd'hui, ce ne sera pas la lèpre. Mais Dieu ne laissera pas passer. Parce que l'orgueil, Dieu ne l'en veut pas. Dieu résiste aux orgueilleux. Amen. Vous le savez, cela. Par contre, c'est vrai que l'apôtre Paul a connu une grâce particulière. Il y avait réellement une écharde qui était là justement pour le maintenir dans l'humilité. Alors, un jour, il y a un jeune qui vient me trouver et me dit « Oui, mais celui qui, dans 2 Corinthiens 12, il est dit qu'il a été élevé au troisième ciel, c'est-à-dire dans la maison de Dieu, hein, c'est la cité de Dieu, c'est l'habitation de Dieu, le troisième ciel. Hein. Il a été enlevé, si c'est dans son corps ou pas dans son corps, il ne savait pas. L'expérience a été tellement violente. » T'es gentil, merci beaucoup. T'es très gentil. L'expérience a été tellement violente qu'il ne sait pas du tout si c'est dans son corps ou pas. N'empêche, il a été ravi au troisième ciel. Et de là, il a entendu des paroles ineffables. Alors, ce jeune vient me trouver. Et puis il me dit, mais c'est pas l'apôtre Paul qui est concerné, il sait même pas, il est en train de dire là. Je dis, si, c'est lui. Mais Dieu l'a conduit à l'humilité au point que justement, il déclare pas ouvertement que c'est lui. C'est comme Jean, quand il parle de lui, il donne pas son nom, son prénom. À certains moments, il s'efface, mais il s'agit de lui dans les écrits. Et l'apôtre Paul est maintenu dans cette humilité. Puis, il y a quand même aussi la présomption. Et là, je te rejoins dans ce que tu as dit, le cache-cache. On joue à cache-cache. Ça s'appelle de la présomption. À un moment donné, Naaman, 2 Rois chapitre 5, chef de l'armée, capitaine du roi de Syrie, enfin, chef de l'armée du roi de Syrie, tout simplement était lépreux et vient se plonger dans les eaux du Jourdain. Cette fois, ça lui a été demandé. Ça a été un peu difficile pour lui, c'était tellement simple, puis humiliant, parce que le grand chef de l'armée du roi de Syrie, pour qu'il se plonge cette fois dans les eaux du Jourdain, vous vous rendez compte un petit peu, quand même, c'est s'abaisser. Eh oui, mais il en avait bien besoin, finalement, de s'abaisser, parce qu'il ne voulait pas le faire. Ben, c'est qu'il y avait un besoin, il fallait qu'il le fasse. Et il l'a fait, il a été béni, et la lèpre est partie. Géasi, le serviteur d'Élisée, alors qu'Élisée ne voulait aucun bien, aucun cadeau de la part de Naaman. Naaman avait prévu vraiment des cadeaux pour Élisée. Élisée refuse le tout, il est très désintéressé. Géasi court après Naaman et puis il lui dit « Mais tu sais, finalement, ça serait bien que tu donnes quand même quelques biens. » Puis il se met à mentir. Vous connaissez un peu l'histoire ? Il prend des biens, Naaman les lui donne, ne pensant pas qu'il ment, mais il mentait. Et puis il ramène tout cela et le cache et ne le montre pas bien sûr à Élisée, qui par ailleurs a été averti par Dieu. Donc il le convoque et puis il lui dit « Qu'est-ce que tu as fait ?» Et alors Géasi, bien entendu, de chercher à couvrir, mais il a été démasqué. Et il a été frappé de la lèpre. Parce qu'il a été frappé de présomption. Il présumait que personne ne savait rien, même pas Dieu. Ah oui, mais ça ne marche pas. Cache-cache. Je cache aux hommes, je ne cache pas à Dieu. Je peux mettre un paravent devant les hommes, mais ça n'existe pas avec Dieu. Dieu sait tout et connaît tout. Et puis également, la division. Alors, excusez-moi, mais la division, c'est un drôle de souci. la division, ça, là on parle de vie d'église. À un moment donné, Marie, qui était la sœur aînée de Moïse, discute avec Aaron et dit « Mais tu te rends compte quand même que Moïse, mon frère, a épousé une femme étrangère, ça ne se fait pas. » Et son mari l'a fait. Et puis on commence à le critiquer, de dire « Mais s'il parle de la part de l'Éternel, mais nous aussi nous parlons de la part de l'Éternel, donc critique, appuyée. » C'est pas Aaron qui mène la danse dans l'histoire, c'est Marie. Et Dieu sait tout. Il convoque Marie, Aaron, Moïse, qui était concerné par les critiques. C'est une convocation au bureau. Je dirais au bureau aujourd'hui. Mais c'était à la tente d'assignation. Vous venez tous au bureau. Et là, l'Éternel descend, bien sûr, dans la nuée et commence à parler. Si je parle à un prophète, c'est par une vision. Je parle à un prophète de manière classique. Mais par contre, quand je parle à Moïse, c'est une autre affaire. Et il y a une représentation de l'Éternel qui est là devant Moïse. Et je lui parle bouche à bouche, c'est-à-dire à un ami comme à un ami. C'est à un autre niveau, à un niveau supérieur. Donc la relation que Moïse avait avec l'Éternel était d'un niveau très élevé. Et Marie a osé toucher à cela. Elle a été frappée de lèpre. Tout le camp de l'Éternel, le camp d'Israël, a été arrêté pendant 7 jours à cause de cette lèpre. Par la langue, elle avait créé un problème, et un problème de division. Et quand on critique, quand on salit, on freine la marche d'une église. Vous le savez, ça ? Donc, il ne faut pas critiquer une église. Oh, si vous avez quelque chose à demander, à vous expliquer, allez trouver la personne concernée. Ça, c'est pas de la critique, mais une mise au point. C'est légitime. Vous comprenez pas Hubert ? Allez le trouver. Vous expliquez avec lui. C'est pas de la critique, c'est mettre au clair les choses. Alléluia. Maintenant, parler dans son dos à d'autres, et puis de dire, ah, mais il a fait ceci, il a dit cela, voilà. Alors ça, c'est de la division. Alors, non seulement ça touche Hubert, mais ça touche aussi l'Assemblée. Et à partir de ce moment-là, il y a un frein spirituel qui est mis au niveau de l'Assemblée. Vous comprenez ? Et finalement, le peuple d'Israël a été stoppé pendant 7 jours. Et puis, bien sûr, Marie a guéri de sa lèpre. Moïse a intercédé auprès de l'Éternel pour qu'elle guérisse. Moïse avait un cœur très large et miséricordieux. Et puis, il faut dire qu'il avait pardonné réellement. Mais cependant, quand même, la lèpre de l'Église à l'heure d'aujourd'hui... Alors ça existe en Afrique aussi, je l'ai vu. La division, malheureusement, ça existe aussi en Afrique. Je l'ai vu. J'ai même été, prise à partie, et pas le seul d'ailleurs, serviteur de Dieu, dans une division. Alors là, dans ce cas-là, on ne prend pas part. On veut nous mettre dedans, on se met hors de. C'est hors de question de participer à une division. Hors de question, et on n'est pas d'accord. Frères et sœurs, cette église existe depuis un certain nombre d'années. Comme l'a souligné Hubert, c'est vrai que depuis le début de cette église, bon, c'est sûr que nous avons une relation très forte, parce qu'on se connaît bien, ainsi que Christine. Nous avons développé une relation régulière, par épisode aussi, à certains moments, on n'est pas toujours ensemble, c'est normal. Mais nous avons une relation qui est assez, qui est soutenue. Et au travers de toutes ces années, eh bien, ils ont eu à la fois la charge de l'Église, et puis il a eu des épisodes aussi où il a tourné ailleurs, il a beaucoup bougé, et puis de nouveau la charge de l'Église. C'est un point qui est important. Cette Église doit prospérer. Merci pour le nombre que vous êtes ce matin. C'est chaud au cœur. Mais cette Église doit se développer. Et toutes nos églises doivent se développer. Toutes les églises en France, toutes les églises du Lyonnais doivent se développer. Amen. Amen. Il y a toujours une menace aussi au niveau de la vision d'une vie d'église, c'est de limiter la vision. À cause de la crainte. N'ayez pas de crainte. Je ne parle pas aux responsables, là. Je ne parle pas à Hubert particulièrement, mais dans le peuple de Dieu, n'ayez aucune crainte. aller de l'avant. Vous n'êtes pas dans une situation de décadence spirituelle. Ça, c'est une autre menace de la vision d'une vie d'église. Il n'y a pas de décadence spirituelle dans cette église. Vous m'écoutez ?
Amen.
Vous répondez ?
Amen.
Est-ce qu'il y a une menace de dévier du cap tracé par Dieu ? Oui. Mais est-ce qu'il y a une déviation du cap tracé par Dieu dans cette église ?
Non.
Oui ? C'est bon ?
Amen.
Alléluia. Et puis, il faut quand même aussi penser à autre chose. C'est qu'il y a la menace d'un ennemi qui, lui, veut nous abattre. Et tu en as parlé, ma sœur, ce matin. Qui veut nous détourner. Qui veut nous oppresser. Qui veut nous mettre la pression. Et là, il faut refuser. Et s'il le met la pression sur l'Église, alors c'est qu'on le laisse faire. Il ne doit pas s'infiltrer dans la vie de l'Église. Il ne doit pas s'infiltrer dans la vie d'un couple. Il ne doit pas s'infiltrer dans la vie de famille. Il ne faut pas le laisser faire et le laisser agir. Au nom de Jésus. Et puis un dernier point, alors, dont je ne parlais jamais avant. Mais maintenant, avec les années qui se déroulent, alors bon, j'ai 69 ans, hein, sous peu. C'est dans quelques jours, alors je dis que j'ai 69 ans. Le 7 avril n'est pas loin. Hein. Ah oui, 69 ans, 7 avril. Mais bon, je me porte bien, ça va. Pas de souci. J'ai encore du temps devant moi.
Amen.
Et que Dieu me le prête, ce temps. Parce que ça lui appartient, ça ne m'appartient pas. Mais vous savez, avec l'évolution que nous connaissons à l'heure d'aujourd'hui, il y a réellement une menace, c'est la pression humaine. Il n'existait pas comme avant. Avant, non, pas autant. La pression humaine. La pression humaine en raison du mode de vie que nous avons. La pression humaine en raison des situations économiques que nous vivons. La pression humaine dans le cadre du travail en raison des dégradations. La pression humaine également, même dans le milieu familial, parfois. Et la pression humaine qui peut exister aussi dans la vie de l'Église. Frères et sœurs, cette pression, quand on en prend conscience, alors on lui dit non, on veut la pression de l'Esprit de Dieu.
Amen.
Comme dit l'apôtre Paul, que l'amour de Christ me presse dans mon cœur pour aller de l'avant. Mais pas la pression humaine, pas la pression de l'ennemi, seule la pression de Dieu au milieu de vous. Soyez bénis et enrichis. Merci beaucoup. Merci pour le témoignage, merci pour l'exhortation. Ça fait du bien. Tu as réellement vu en vision ce que tu as dit tout à l'heure, cache-cache. Oui, c'était une vision. Amen. Que Dieu vous en donne plus de vision. Que Dieu vous parle plus encore. Parce que ça, c'est important que Dieu vous parle. Pour l'Église, mais aussi à chacun de vous. Soyez bénis et enrichis. Que Dieu vous parle et vous conduise dans les jours qui viennent. Amen. Je laisserai la place à je ne sais pas qui.
Nous bénissons le Seigneur pour le message et je vous invite à la prière. Seigneur, notre Dieu, tu nous parles d'une manière ou d'une autre. Le message, il est venu de toi. Chacun sera trouvé. Nous voulons que ce message, Seigneur, ne reste pas lettre morte, mais qu'il apporte du fruit. Tant de Père, qui nous rassemble autour de ta parole. Merci pour ton serviteur que tu as ramené devant, Seigneur, pour nous enseigner, pour nous parler de ta part. Éternel, notre Dieu, le plus difficile, c'est la mise en pratique. Mais nous savons, Seigneur, que nous sommes rassemblés autour de ta parole. que tu es un avec les pères, nous voulons être aussi un en Jésus-Christ. Nous voulons ensemble avancer et non pas faire les sept places. Merci pour la vision de toute l'Église, la vision personnelle, comme nous l'avons entendu. Merci aussi, Seigneur, de savoir que seul, nous n'y arriverons pas. Mais avec Dieu, tout est capable et tout est possible. Nous pouvons y arriver. Nous allons y arriver avec ton aide. C'est pour cela que nous t'invitons que tu prennes place dans cette assemblée, au sein de cette assemblée. Nous avons besoin de toi. Besoin de ton esprit qui nous conduise à jamais. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci à notre frère pour le message, c'est encourageant. Merci aussi de transmettre nos salutations à l'Assemblée du peuple de Dieu. Nous voulons, pour la première fois, acclamer le Seigneur très, très, très fort pour ce message. Et je vais vous montrer le pistolet et vous montrer.